الشرقية عيونا لوزية حبك من قلبي يا وانتي عيني حبك من قلبي يا وانتي عيني بنت الشرقية عيونا لوزية حبك من قلبي يا
Et pour la deuxième émission de 2025, à nouveau animé par Marseille-Gaza-Palestine, le collectif qui, au sein de Palestine en résistance, œuvre pour le jumelage entre Marseille et Gaza. À nouveau, nous souhaitons aux auditeurs et à notre Radio Galère une année de santé, de lutte, de résistance pour un monde de justice, de dignité et de paix. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, eh bien, nous vous annonçons une collecte de fonds pour les blessés et malades palestiniens qui ont été évacués au Caire depuis plus de 15 mois maintenant et qui ne peuvent plus rentrer à Gaza, qui sont dans une situation extrêmement précaire. Voilà, si vous le pouvez, vous pouvez faire un chèque à envoyer à Palestine 13, sous couvert de la CIMAD, 8 rue Jean-Marc Catala, 13002 Marseille, et vous mentionnez au dos blessés et malades palestiniens en Égypte. Je rappelle, chèque à l'ordre de Palestine 13, envoyé à Palestine 13, sous couvert de la CIMAD, 8 rue Jean-Marc Catala, 13002 Marseille. Merci pour eux. Et on continue avec une bien triste nouvelle. Puisque notre ami, notre camarade Bénédicte Boré est parti rejoindre le pays des ancêtres de l'autre côté du miroir dans la nuit du 2 au 3 janvier 2025. Bénédicte a été élue dans sa ville de Mantes-la-Ville, puis au conseil régional d'Île-de-France. Elle était aussi la présidente de l'association de sa ville, jumelage avec le camp de réfugiés de Shaoufat, situé entre Jérusalem et Ramallah. En 2013, elle avait appelé au boycott des produits israéliens et fut accusée par les traditionnels soutiens du colonialisme et de l'apartheid israélien. Elle fut accusée du classique terme d'antisémite, sans être pour autant inquiétée par la justice. Puis le terroriste Ulkan avait tenté d'envoyer la police à son domicile en utilisant ses coordonnées téléphoniques pour annoncer un meurtre et une prise d'otage. Bien évidemment, dans les deux cas, Bénédicte n'a pas fait l'objet de poursuites, et bien au contraire. Installée à Marseille, son spot, comme elle disait, depuis 2021, elle a participé au Congrès national de la Ligue des droits de l'homme, participé activement, ainsi qu'aux activités du collectif Palestine en résistance, en particulier en hébergeant les Palestiniens invités lors des conférences. Lorsque le cancer l'a attrapée, puis affaiblie, et malgré la maladie, elle continuait depuis son lit à soutenir la résistance palestinienne, pestant de ne pouvoir être plus active, de ne pouvoir manifester avec nous le refus du génocide, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Bénédicte, comme Suzanne et Marine, seront à nos côtés pour amplifier le soutien à la justice, à la dignité et à la paix pour tous les peuples, y compris pour le peuple palestinien. Voilà, vous le savez, depuis des années, des associations marseillaises, et en particulier Palestine 13, réclamaient le jumelage entre Marseille et Gaza, ville méditerranéenne miroir à l'est de notre pays, au bord de notre mer commune. Depuis 2020, avec 13 organisations locales, nous avons écrit à maintes reprises à Benoît Payan, maire actuel de Marseille. Son refus de nous entendre, mais aussi d'interdire une salle pour le président d'Amnesty International qui devait présenter le rapport de son organisation sur l'apartheid israélien, ou de sanctionner le génocide en cours à Gaza et le nettoyage ethnique en Cisjordanie en suspendant le jumelage avec Haïfa sont insupportables et montrent clairement le choix politique qui est fait par le maire Payan. L'année prochaine auront lieu les élections municipales. Cette fois, M. Payan ne pourra pas se cacher derrière Mme Rubirola. Il devra se confronter aux électeurs et électrices de notre ville. Qu'il y pense et qu'il regarde sérieusement du côté de Gaza, du côté du droit international, de la justice, plutôt que de se comporter en caution silencieuse d'un génocide. Et enfin, pour avoir un aperçu de Haïfa, de sa municipalité et de sa police, on va écouter Gaïa Dan, une jeune israélienne juive de Haïfa, qui nous parle de ce qu'elle a vécu.
Gaïa Dan, I'm 23 years old from Haïfa. I'm an activist in the anti-occupation bloc. And ever since the 7th of October, me and my friends are being harassed and sometimes arrested over our attempts of protesting against the ongoing atrocities in Gaza and the West Bank. Freedom of speech and the freedom to protest was always limited here. But these days it's almost impossible to say you're against the war without fearing for your safety or your freedom being taken away. And it's even more dangerous if you're a Palestinian. During my arrest about a month ago, because I protested in Cholev Center against the war, the cops in the station kept chanting songs about returning to Gush Katif settlement and about killing the people of Gaza. They kept calling us sluts and they called us traitors. We cannot let them to silence us like they wish they can do. And we cannot allow ourselves to sit in silence while the people of Gaza are being massacred and the people of the West Bank are suffering in the hands of settlers and the military. I plead all who's watching to take action against the silencing of us, but most importantly, to raise your voice against the ongoing massacre in Gaza right now.
Je m'appelle Gaïa Dan, j'ai 23 ans et je viens d'Haïfa. Je suis une militante du bloc contre l'occupation. Depuis le 7 octobre, avec mes camarades, nous sommes harcelés et parfois arrêtés lorsque nous voulons dénoncer les atrocités commises à Gaza et en Cisjordanie. Liberté d'expression et de protestation ont toujours été limitées ici. Mais depuis le 7 octobre, il est devenu quasi impossible de dire que vous êtes contre cette guerre sans craindre pour votre sécurité et votre liberté. Et c'est bien plus dangereux si vous êtes palestinien. J'ai été arrêtée lors d'une manifestation contre la guerre dans le centre Oref de Haïfa. Lors de la détention, j'entendais les policiers qui chantaient pour le retour des colons à Gush Katif et pour tuer les Palestiniens. Ils nous ont traités de salopes et de traîtres. Nous ne pouvons accepter qu'ils nous bâillonnent, et nous ne pouvons accepter de nous taire alors que la population de Gaza est massacrée et que celle de Cisjordanie est victime de colons et des soldats. Je supplie ceux qui regardent, écoutent ce message, d'agir pour que nous puissions faire entendre nos voix contre la guerre et surtout pour qu'ils se lèvent contre les massacres qui ont lieu à Gaza.
Wake up, it's a long night, darling. Wake up, it's the brightest sky. No love, it's a dark night, darling. Hold on to me for dear life. Wake up, where do we go to? Wake up, fire in your eye. Oh love, we will try to come and save you. It's all just a matter of time. Wake up, won't you listen to the people? Wake up from the mountain of the lies. No love you've been upon through every sequel. Wake up, call your brother, call your mother. Wake up under raid from the sky. Oh love, we're digging deeper in the rubble. Hold on to my voice outside. Wake up, we just lost another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming for you. Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back.
Nous allons maintenant écouter Mikaël Fakhri. Alors, pour vous expliquer pourquoi vous entendez les témoignages en anglais, parce qu'il nous a semblé important aussi que vous puissiez entendre les voix de ceux qui témoignent, plutôt que de nous entendre simplement traduire ce qu'ils ont dit. Donc, après Gaïa, et bien maintenant, voilà, Michael Fakhri, il est rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. Il a été nommé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU depuis le 1er mai 2020. Il est aussi professeur à la faculté de droit de l'Université de l'Oregon, où il enseigne des cours sur les droits de l'homme, le droit alimentaire, le développement et le droit commercial. Il est également directeur du projet de résilience alimentaire du Centre de droit de l'environnement et des ressources naturelles. Mohamed Fakhri, Michael Fakhri, pardon.
How was Israel able to starve 2.3 million Palestinians in Gaza so quickly and so completely? We have never seen in modern history this speed of starvation ever. Of course, this doesn't start on October 7. You can go back multiple points in time. From 2000 to 2023, Israel has a profound degree of control over Gaza. And it's like a faucet that you tighten and loosen. And they would make sure that the Palestinians in Gaza were just hungry enough to not raise alarms. They were counting calories and measuring what is allowed in to make sure that everyone remained hungry in Gaza, but not so hungry that it raised alarm bells in the international humanitarian world. So that on October 6th, 2023, half of people in Gaza were food insecure and 80% depended on humanitarian aid. This is an attempt to use starvation to displace people, to kill people, to annihilate people, as an attempt to erase the Palestinians from history and from their land in order for Israel to fully annex Palestinian territory. And we see that their annexation plan continues now into Lebanon.
Comment l'Israël a-t-il pu réduire à la famine 2,3 millions de Palestiniens si rapidement? Nous n'avons jamais vu dans l'histoire moderne apparaître à telle vitesse et si totalement une famine. Bien sûr, rien n'a démarré le 7 octobre. Il faut remonter dans le temps. De 2003 à 2023, l'Israël a eu un profond degré de contrôle sur la bande de Gaza. C'est comme un robinet que vous ouvrez et fermez. Et il pouvait ainsi s'assurer que les Palestiniens de Gaza avaient juste faim, mais pas suffisamment pour ne pas alerter. Il comptait les calories et mesurait ce qui était autorisé à pénétrer dans la bande de Gaza pour s'assurer que tout le monde avait faim, mais pas suffisamment affamé pour tirer la sonnette d'alarme des organisations internationales. Donc, le 6 octobre, l'insécurité alimentaire frappait la moitié de la population de la bande de Gaza et 80% des 2,3 millions de Gazaouis dépendait de l'aide alimentaire. C'est une tentative d'affamer la population, de la tuer, de la déplacer, de l'aliéner. Avec la volonté d'effacer la présence palestinienne, ceci afin qu'Israël puisse annexer totalement les territoires palestiniens. Et nous voyons aujourd'hui que cette volonté d'annexer des territoires se poursuit au Liban.
Oui, se poursuit au Liban et se poursuit aussi en Syrie, comme nous le constatons quotidiennement. Maintenant, nous allons écouter Louise Wetridge, officier des urgences à l'UNRWA. Elle se trouvait à Gaza il y a quelques mois. Elle décrit les horreurs sans fin. Elle dit à Channel 4 que l'UNRWA est sur le point de mettre fin à ses opérations à Gaza et en Cisjordanie au 28 janvier en raison d'une interdiction faite par les autorités israéliennes et que personne d'autre, aucune organisation, ne pourra prendre le contrôle des activités menées par l'UNRWA.
When I left Gaza just a few days and weeks ago, the people were being crushed to death waiting for food, for flour, and children have now started freezing to death because they don't have enough shelter items. This is the situation with UNRWA on the ground. This is the situation with the largest humanitarian organization doing everything they can with the rest of the United Nations.
Can anyone take over?
No.
Right, no one can do that.
As simple as that. And okay. You can't imagine, if it's this bad now, how awful will it be in a few weeks or in a few months if they cease to operate working with UNRWA?
Is this genocide?
I'm not a legal expert. That's not for me to be able to say, but I can tell you what I see. We see children being killed every day. We see people without food. We see people without access to clean water on a daily basis. Disease is spreading. We saw polio return. That was eradicated after 25 years. It's endless. The horrors are endless.
Lorsque j'ai quitté Gaza il y a quelques semaines, au moment d'un massacre de personnes, les gens ont été mortellement écrasés alors qu'ils attendaient l'aide alimentaire, de la farine. Les enfants ont commencé à mourir de froid, gelés, parce qu'il n'y a pas d'abri, de fourniture pour protéger du froid glacial. Voilà la situation sur le terrain, selon l'UNRWA. Ceci est la situation pour la plus grande organisation présente, qui fait tout ce qu'elle peut avec les autres agences de l'ONU. Question. Est-ce que d'autres peuvent prendre le relais? Non. Et vous pouvez imaginer que si c'est terrible aujourd'hui, comment cela va être dans quelques semaines ou dans quelques mois, s'ils décident de ne plus travailler avec l'UNRWA. Alors, question du journaliste, est-ce que c'est un génocide? Réponse, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas en capacité de le dire, mais je peux vous dire ce que j'ai vu. Nous avons vu des enfants être tués chaque jour. Nous avons vu des gens sans nourriture. Nous avons vu des gens sans accès à l'eau potable, et cela au quotidien. Les maladies se propagent, c'est le retour de la polio qui avait été éradiquée il y a 25 ans. C'est sans fin. Les horreurs sont sans fin.
Et maintenant, voilà Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies dans une conférence de presse lundi 6 janvier, tenue à New York, au siège de l'ONU. Un Stéphane Dujarric, certainement assez irrité par ce qu'il venait de se passer la veille dans la bande de Gaza.
WFP strongly condemned the incident that took place on Sunday when a clearly marked WFP convoy was shot at by Israeli forces near the Wadi Gaza checkpoint, putting staff lives at tremendous risk and leaving the vehicles immobilized. The convoy consisted of three vehicles carrying eight staff members. It came under hostile fire despite having received all of the necessary clearances from Israeli authorities. At least 16 bullets struck the vehicle. Thankfully, no staff members were injured in what was must have been a horrifying encounter for our colleagues. The World Food Program and we urge all parties to respect international humanitarian law, protect civilians, and allow safe passage of humanitarian aid into and throughout Gaza.
Le Programme Alimentaire Mondial, PAM, condamne fermement l'incident qui a eu lieu le dimanche 5 janvier. Lorsqu'un convoi clairement identifié Programme Alimentaire Mondial a été ciblé par des tirs de l'armée israélienne près du poste militaire de Wadi Gaza, mettant ainsi en péril la vie des membres de notre équipe et mobilisant nos véhicules. Le convoi était composé de trois véhicules comportant huit membres du PAM, a été pris sous des tirs hostiles, bien que tous les certificats de sécurité nécessaires ait été reçu de la part des autorités israéliennes. Au moins 16 balles ont frappé les véhicules. Fort heureusement, aucun membre de notre équipe n'a été blessé, ce qui aurait pu être une terrifiante rencontre pour nos collègues. Nous et le PAM sommons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire, à protéger les civils et à permettre le passage sécurisé de l'aide alimentaire dans Gaza et à l'intérieur de la bande de Gaza.
Voilà, c'était Stéphane Dujarric, donc, et maintenant nous allons retrouver cette incroyable personne qui est Francesca Albanese, rapporteure spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Avant ce poste, elle a travaillé pendant 10 ans en tant qu'experte des droits de l'homme pour les Nations Unies, notamment pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et pour l'UNRWA. On l'écoute une première fois, ensuite on fait une pause musicale et on reviendra avec elle pour parler du génocide, des déclarations des membres du gouvernement français et du président. C'est une... Bon, je reviendrai pour vous en reparler. On écoute Francesca Albanese.
Hypocrisy in international community. This, what's going on now, it's the epitome of double standards. It's unconscionable, the silence. I would say Western countries, but not only. Mm-hmm. Arab countries are not necessarily better. Mm-hmm. I mean, apart from a few exceptions. There is a disconnect between decision makers and reality. And reality, both reality on the ground, because there is a genocide unfolding. Even the ICJ has recognized the plausibility of genocide in a very short time, which is very significant, and no action taken. But there is also a disconnect between civil society and common, ordinary people globally who are taking the street in solidarity with Palestinians. Whatever you turn your gaze, you see people expressing solidarity with the Palestinian and asking for a ceasefire and genocide, and the political landscape is paralyzed.
Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la communauté internationale. Ce qui se passe en ce moment, c'est une synthèse du double standard. Un inacceptable silence des pays occidentaux, mais pas seulement. Les États arabes ne sont pas vraiment mieux, à part quelques exceptions. Il y a une déconnexion entre les décideurs et la réalité. La réalité du terrain d'abord, où se déroule un génocide. La Cour internationale de justice elle-même évoque la probabilité d'un génocide à court terme, ce qui est très significatif, et il n'y a aucune action prise. Il y a aussi une déconnexion entre la société civile, la population ordinaire qui descend dans la rue pour manifester sa solidarité avec le peuple palestinien. Où que vous tourniez le regard, vous voyez des gens qui expriment la solidarité avec le peuple palestinien et qui appellent au cessez-le-feu et à l'arrêt du génocide. Et le paysage politique est paralysé.
Wake up, it's a long night, darling. Wake up, it's the brightest sky. No love, it's a dark night, darling. Hold on to me for dear life. Wake up, where do we go to? Wake up, fire in your eye. Oh love, we will try to come and save you. It's all just a matter of time. Wake up, won't you listen to the people? Wake up from the mountain of the lies. No love you've been upon through every sequel. Wake up, wake up, wake up, wake. Wake up, call your brother, call your mother. Wake up under raid from the sky. Oh love, we're digging deeper in the rubble. Hold on to my voice outside. Wake up, we just lost another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming for you. Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back.
Voilà, on revient pour le dernier entretien avec Francesca Albanese. Alors, c'est un entretien qu'elle avait accordé à Mediapart il y a plusieurs mois. Et il est extrêmement intéressant parce qu'elle recadre tout les positions du gouvernement français. Elle est extrêmement claire. Voilà, vous allez l'écouter si c'est trop long, parce qu'ensuite on doit appeler un des animateurs de la campagne Stop Arming Israël, la campagne nationale Stop Arming Israël. Si c'est trop long, eh bien on réduira un tout petit peu, mais voilà. Écoutez Francesca Albanese, alors ce n'est pas elle directement cette fois-ci, c'est la traduction de l'entretien, c'est la transcription de l'entretien donné à Mediapart.
Question de Mediapart, quels sont les éléments factuels qui vous permettent de conclure dans votre rapport que le seuil indiquant qu'Israël a commis un génocide est atteint à Gaza? Pour qu'il y ait génocide, il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l'intention de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Mon rapport démontre qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis un génocide. L'intention peut être directe par des déclarations, des documents officiels de personnes détenant l'autorité de commandement, ou elle peut être déduite par la nature, l'ampleur des crimes, la façon de les conduire. Plus de 31 000 personnes, dont 70% de femmes et d'enfants, ont été tuées. Ce qui ne veut pas dire que les 30% d'hommes tués seraient tous des cibles légitimes. À Gaza, les civils sont pris pour cible à un niveau sans précédent. À la destruction des vies s'ajoute la destruction de tout. Les écoles, les quartiers, les mosquées, les églises, les universités, les hôpitaux, qui sont essentiels pour permettre à la vie de continuer, surtout dans une situation aussi catastrophique. Nous ignorons combien de personnes vont mourir des suites de leurs blessures, mais nous savons qu'un très grand nombre d'entre elles ont dû être amputées. L'État d'Israël organise également la famine. En refusant de fournir l'aide humanitaire qu'il est obligé de fournir en tant que puissance occupante, en bombardant, en détruisant tout ce qui permet de survivre, les infrastructures, les terres arables, en ciblant les convois humanitaires, il sait pertinemment qu'il va causer la mort de personnes, en particulier d'enfants. Israël a dissimulé sa logique et sa violence génocidaire, dernière des arguments du droit international humanitaire. En affirmant qu'il ne visait que des objectifs militaires, qui en fait étaient des civils, en caractérisant la population entière comme des boucliers humains ou des dommages collatéraux, en ciblant les hôpitaux ou les évacuations qu'il a envoyées. Il a envoyé mourir les gens en ordonnant des évacuations massives pour ensuite transformer les zones de sécurité où la population se réfugie en zones de mort. Question. Votre analyse est critiquée par plusieurs chancelleries, notamment en France, où le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, affirme qu'accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Que leur répondez-vous ? Francesca Albanese. Le génocide est défini par le droit international. Il n'est pas défini par des opinions personnelles ou par des expériences historiques douloureuses. Aucun État n'est au-dessus des lois. Que signifie dire ? Comment peut-on accuser l'État d'Israël ? Pourquoi ne le pourrais-je pas ? J'entends les déclarations, les arguments du gouvernement français et je suis profondément en désaccord avec sa lecture du 7 octobre 2023. Concluons que nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord. Question de la journaliste. Le terme de génocide est au cœur de vives polémiques car c'est aussi une arme politique. Pas pour moi. L'apartheid est un crime. Le génocide aussi. J'utilise ces termes de la manière la plus stricte possible. Je sais qu'en Europe, des personnes s'en indignent parce que dans leur esprit, le seul génocide qu'elles puissent concevoir, auquel elles puissent s'identifier, c'est le génocide du peuple juif, la Shoah, même si nous avons eu d'autres génocides. Ma génération a vu au moins 3 génocides reconnus comme tels. Au Rwanda, en ex-Yougoslavie et en Birmanie. Nous sommes aussi concernés par cela. L'Occident refuse de comprendre que le colonialisme de peuplement a nourri des pratiques et une idéologie génocidaire. Raphaël Lamkin, à qui l'on doit le concept de génocide, l'analysait lui-même il y a des décennies. Je suis troublée par cette hypothèse dogmatique selon laquelle un État ne pourrait pas commettre certains crimes en raison de son histoire. Je rappelle aussi que la création de l'État d'Israël a été le résultat d'une autre catastrophe, d'une horreur qui s'est abattue sur le peuple juif, mais qu'elle a également provoqué une autre catastrophe, une autre tragédie. Les deux ne sont pas comparables. Pourtant, les Palestiniens, en tant que peuple, ont été dépossédés par la création de l'État. Tant que nous ne prendrons pas en compte les doléances du peuple palestinien, dont le dépossessement forcé n'a pas pris fin, nous continuerons à vivre dans cet état artificiel de déni qui n'aide ni les Palestiniens, ni les Israéliens.
Oui, on va abréger, on reviendra peut-être dans une autre émission sur la fin de cet entretien accordé par Francesca Albanese à Mediapart. Et tout de suite, on fait une pause musicale avant d'appeler Loïc de Stop Arming Israël France.
Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano.
ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di armata. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore.
Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione, fino alla vittoria! Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Voilà, vous venez d'écouter Rosa Palestine et précédemment c'était Wake Up Young Boy, des chansons que vous pouvez retrouver sur le net. Et tout de suite, eh bien, nous sommes en ligne avec Loïc de Stop Arming Israël France. Alors bonjour Loïc.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Galère, 88.4 à Marseille. Tu pourras nous retrouver sur Internet. Radio Galère. Et tout de suite, parce qu'on est un peu pressé par les horaires, eh bien, première question pour ceux qui ne connaissent pas encore Stop Arming Israël, parmi nos auditeurs, c'est quoi, c'est depuis quand, voilà.
Ok, alors oui, pour se présenter en quelques mots, donc nous on est un jeune collectif, on s'est créé donc en novembre 2023, parce que suite au 7 octobre donc 2023 aussi, donc il y a eu un appel rédigé par plus de 30 syndicats palestiniens, donc de Gaza et de Cisjordanie, donc un appel adressé aux travailleurs, travailleuses et personnes de conscience du monde entier disant dans vos pays, agissez pour arrêter d'armer Israël. Et donc moi, via mes réseaux syndicaux, j'ai reçu ce texte, et je me dis, c'est ça que je veux faire. Je pense que c'est comme ça que je peux vraiment aider le peuple palestinien en faisant en sorte que si la France vend des armes à Israël, s'il n'y a plus d'armes vendues à Israël, on peut obtenir plus vite un cessez-le-feu, quoi. Donc on s'est un peu créé comme ça en répondant, c'est toujours une réponse à ce texte des syndicats palestiniens, mais finalement il n'y avait rien en fait comme structure pour répondre à cet appel, et il a fallu aussi prouver que, est-ce que la France vend des armes à Israël, c'est la première question, quoi. Donc en regardant les 10, enfin comme on est comme un gros vendeur d'armes en France, on a regardé un peu les 10 plus grosses multinationales françaises, et oui, en fait, 7 sur 10 vendaient des armes à Israël, on s'est dit, c'est bon, cette campagne est pertinente, on peut effectivement exiger que l'État français et les entreprises privées et publiques d'armement arrêtent leur commerce avec la génocidaire. Donc on a commencé comme ça, là, c'est donc par faire connaître cet appel à un maximum de structures existantes en France pour dire, écoutez, faisons cette campagne ensemble, un syndicat, assos, parti, il faut qu'on s'unisse sur cette revendication-là qui est, nous semble gagnable, quoi. Ça, c'est vraiment les tout débuts. Et on a eu cette politique aussi de dire, il faut qu'on s'adresse aux travailleurs de l'armement, parce que le texte est pour eux, parce que c'est un texte qui dit, il faut en gros qu'on arrête de penser, qu'on arrête de produire et de transporter les armes ou les composants militaires vers Israël. Israël. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on adressons-nous à ceux qui les fabriquent et ceux qui les pensent, donc les travailleurs de l'armement eux-mêmes. La difficulté, c'est que les travailleurs de l'armement ne savent pas les destinataires de, ou les clients de leur, leur entreprise. Par exemple, Thales a, je sais pas, 150 clients dans le monde, pays clients dans le monde. Évidemment, le salarié de base de Thales ne connaît pas l'ensemble du catalogue de Thales. Donc du coup, on a fait tout un travail de pour expliquer entreprise par entreprise quels étaient les liens. Et donc Thales a 3-4 liens avec Israël, Safran a 3-4 liens, etc. Donc on a distribué des tracts adressés entreprise par entreprise pour que les travailleurs de l'armement se rendent compte que ce conflit lointain dont on parle à la radio, à la télévision, sur Internet, ben en fait, il y a un lien avec leur entreprise, et donc par leur travail ou leur arrêt de travail, ils pouvaient agir pour aider le peuple palestinien. Quoi. Donc c'est un peu ça, c'est un peu sur cette base-là qu'on s'est créé.
Ok, c'est un énorme boulot qui a été fait à ce moment-là, parce que les entreprises sont en principe très frileuses pour communiquer sur leurs clients, sauf peut-être les entreprises israéliennes qui, au contraire, se glorifient de ce qu'elles font.
Oui, c'est très paradoxal, parce qu'on a l'image de l'armement, c'est top secret. En fait, c'est pas, on va dire que les processus, leur tambouille interne est secrète effectivement, mais l'industrie d'armement est une industrie qui est discrète. Donc ils font pas de vagues. Mais néanmoins, quand ils signent des gros contrats, ils l'annoncent. Et donc du coup, nous, juste en cherchant sur Internet et en cherchant sur le site de Safran, Thales, etc., et sur le site des géants de l'industrie israélienne, on a pu retrouver des communiqués très fiers en disant ça y est, on a signé un contrat avec Elbit, le numéro 1 de l'armement israélien, avec IAI, le numéro 2, etc. Donc en fait, on a fait tout ce travail dans le web, toutes ces infos étaient un peu dispersées et diluées. On a fait tout ce boulot. Du coup, on a publié un guide en mars l'année dernière pour qu'on puisse visualiser et comprendre tous ces liens qui sont en fait tous des liens connus, enfin, sont publics, c'est les communiqués de presse. Quoi. Par contre, je vous donne un exemple. Sur le site internet de Thales, il est écrit, on a fait un radar qui est compatible avec les drones de Elbit. Donc l'information, c'est juste ça. Donc ça ne dit pas en quoi consiste ce partenariat, est-ce qu'il y a eu des ventes avant le 7 octobre, est-ce qu'il y a eu des ventes après le 7 octobre, ça n'en sait rien, mais on fait qu'il y a un lien. Donc sur cette base, on dit, donc, nous, on demande que Thales rompe ce lien, notamment avec Elbit. Quoi. Donc voilà, c'est pour se dire quoi. Donc effectivement, c'est. On se dit tous que ça va être compliqué. En fait, c'est pas compliqué, c'est public, c'est discret, mais l'information est accessible, et d'autant plus maintenant qu'on l'a rendu public sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est encore plus simple pour comprendre tous ces liens réels entre la France et Israël. Quoi.
Alors, ce guide que vous avez publié, on peut le trouver où pour les auditeurs?
Alors, pour les auditeurs, le parcours le plus simple, c'est d'aller sur Instagram, le réseau social, de chercher donc Stop Arming Israël France. Et dans la descriptive, dans ce qu'on appelle la bio de notre page donc Instagram, il y a un truc qui s'appelle le Padlet, donc cliquez dessus. Et sur ce Padlet, il y a tous nos tracts, on a réalisé une carte de France pour visualiser toutes les implantations de toutes ces entreprises d'armement qui sont près de chez nous. Donc ce tract Padlet, effectivement, le guide de l'armement. Donc tout ça se trouve sur effectivement ce que ça s'appelle, donc c'est un site web qui s'appelle Padlet, qui nous héberge, vous le trouvez via notre Instagram qui est Stop Arming Israël France.
Alors une question, est-ce que vous avez déjà eu le temps de créer des liens avec des structures qui dans d'autres pays travaillent sur les mêmes sujets? Je pense particulièrement à une association qui nous avait beaucoup aidé à l'époque lorsque le boycott d'Orange avait été lancé. C'est une association israélienne qui s'appelle Who Profit from the Occupation.
Oui, alors effectivement, ce qu'on a remarqué, donc c'est bon, bah, moi j'étais pas impliqué comme organisateur sur la cause palestinienne avant le 7 octobre, et je pense qu'il y a plein de personnes dans le monde qui sont venues à la politique par la question palestinienne post 7 octobre. Donc, et donc du coup, il y a eu énormément d'initiatives dans le monde entier. Sur ces questions plus spécifiques d'armement, nous très vite, on a vu que d'autres groupes dans le monde agissait sur les questions d'armement. Donc on s'est lié avec des différentes modalités d'action possible. Donc on a commencé à créer un réseau européen puis mondial de structures nationales pour essayer de se coordonner et puis pour effectivement juste se donner des informations, se donner la force et comprendre un peu les liens. Et donc oui, c'était en parmi nos ressources. On a eu effectivement, il existe plusieurs ONG qui font de la surveillance sur qu'est-ce que Israël exporte en matière d'armement ou qu'est-ce que les pays importent en matière d'armement. Donc oui, on a utilisé des ONG comme WeProfit. Il y avait aussi le CAT, donc c'est CAAT en Angleterre, c'est sur, je me souviens plus de l'acronyme, mais la fin c'est Arm Trade. Donc on s'est appuyé un peu sur le trade préexistant. Mais le souci, c'est qu'en fait, sur ce qui était spécifiquement français, il a fallu... c'est des ONG qui sont basées en Israël, ou en Angleterre, ou aux USA. Donc, ils ont effectivement regardent surtout leur entreprise nationale. Donc, nous, on a dû quand même... on a regardé ce qui existait. Il n'y avait pas grand-chose sur les autres sites. Donc, on a dû, juste aller voir... tout simplement, sur le site de Thales, il y avait toutes les informations. Donc, on a aussi utilisé les sites web de nos adversaires, quoi.
Alors, comme ces entreprises, comme on le disait, souhaitent être le plus discrète possible, on va essayer de les nommer toutes puisqu'elles travaillent avec certains pays, elles travaillent avec Israël. Il n'y a pas de raison qu'elles en soient timides ou qu'elles soient choquées par le fait de travailler avec Israël. Donc, puisqu'il n'y a rien de choquant à travailler avec Israël, nommons-les. Est-ce que tu as...
Oui, alors, deux têtes. Et donc, j'ai essayé de faire un truc intergénérationnel. Donc, parmi les entreprises françaises qui ont... Donc, les grosses multinationales qui ont des liens. Donc, il y a Thales. Anciennement, c'était Thomson. Il y a Safran. Anciennement, c'était la Smecma. Il y a Airbus. Il y a le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, j'en suis déjà à 4, il me manque quoi encore comme entreprise, donc le Naval Group n'a pas de lien, j'ai un petit trou de mémoire, MBDA, le missilier, a des liens via ses filiales dans le reste de l'Europe. Donc toutes les multinationales françaises qu'on connaît de tête, en fait, toutes, de toute façon, sont impliquées avec Israël, quoi.
Et nous, sur Marseille, on a cette... Alors, il y a Dassault aussi.
Oui, alors exactement. Dassault, aviation, ça c'est plutôt dans le passé, mais Dassault Systèmes, qui fait plutôt des logiciels, est également lié à Israël. Finalement, merci de me rappeler Dassault. Donc oui, c'est pour ça que vraiment tout le monde, tous ceux qu'on connaît dans l'aviation, dans l'armement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces ventes, par contre, c'est pas du gros matériel militaire, c'est pas des armes, c'est pas des pistolets, c'est pas des tanks, c'est pas des avions. Bon, c'est vrai que Macron dit on vend pas d'armes, parce qu'effectivement ça correspond pas à ça, mais ce sont plutôt des composants. Donc finalement ça peut être des petites pièces, ça peut être mais qui sont quand même centrales pour l'armement. Par exemple Thales, c'est quand même le plus simple à comprendre. Thales, donc, on a découvert que, grâce à Disclose notamment, que Thales donc, était en train d'exporter des systèmes radars qui sont utilisés dans les drones Hermès 900, les drones de combat qui bombardent la population, notamment Gazaoui. Cette radio n'est pas létale, elle ne tue pas. Par contre, elle permet au drone de combat de lui l'être. Donc ce sont à chaque fois des pièces qui sont centrales dans une arme à différentes pièces, et toutes les pièces sont nécessaires. Et donc la France fournit toutes ces pièces qui sont à la fin utilisées pour tuer les Gazaouis, quoi. Donc c'est pour ça se dire, pour parler sur les chiffres, en fait, donc la France, c'est 20 millions chaque année de vente de matériel. Donc ça, c'est une constante. Ça, c'est matériel directement létal. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les biens à double usage, donc des biens qui sont achetés comme étant, pour être polyvalents, pour du civil et du militaire, mais Israël les utilise comme matériel militaire. Ça a bondi, on est passé de 20 millions à 120 millions d'euros entre 2022 et 2023. Donc il y a aussi tout ça comme type de vente. Et après, le dernier type de relation, c'est qu'on fait aussi il y a des co-entreprises, notamment Thales avec Elbit ont créé une entreprise de drones en Angleterre. Donc ça, c'est de l'argent qui à la fin revient à Thales France, mais c'est une vente de l'Angleterre. Il y a tout ce qui est effectivement la recherche ensemble. Donc ils vont créer des relations pour développer ensemble un drone du futur. Et donc ça, pour l'instant, ça ne rapporte pas d'argent ni à l'un ni à l'autre, mais ils s'habituent à travailler ensemble et ça va finir par des productions qui vont être vendues, utilisées, testées sur les différents peuples, dont le peuple palestinien, quoi. Donc ça, c'est pour les grosses boîtes nationales. Voilà. Mais je pense que tu allais me relancer sur les aspects locaux et je te laisse d'abord poser la question.
Pas tout de suite, pas tout de suite. Je voulais d'abord intervenir sur la vieille tradition française d'avoir fourni, par exemple, à l'époque où il y avait un embargo fait par le général de Gaulle, eh bien, comme par hasard, les fameuses frégates de Cherbourg sont parties grâce à un soutien mystérieux qui a permis de briser cet embargo. Il y a eu aussi le don qui a été fait par la France à une époque où il y avait des gouvernements dits socialistes, de l'arme nucléaire à Israël, avec la centrale de Dimona, ce qui a permis à Israël de s'équiper de l'arme nucléaire sans jamais faire le moindre essai, puisqu'elle avait toute la technologie française qui avait été testée, soit dans les colonies, soit dans le désert du Sahara, soit plus tard à Mururoa et ailleurs, provoquant jusqu'à aujourd'hui des drames dans les populations locales. Et en fait, il y a aussi cette entreprise Exelia qui est en procès actuellement. Alors, je ne sais pas où en est le procès. Il avait été ouvert il y a près de 2 ans, me semble-t-il, au moins plus d'un an, puisque avait été retrouvé, après l'assassinat de 3 petits garçons sur un toit à Gaza, une pièce qui se trouvait, justement, comme tu l'évoquais, une pièce qui se trouvait dans un missile et qui était fabriquée par une entreprise française qui est aujourd'hui devant la justice. Alors, on peut imaginer que Thalès, un de ces jours, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être récupérées à Gaza par la suite, eh bien, on pourra imaginer aussi que certaines entreprises françaises soient un jour devant soit la Cour internationale de justice, soit devant la Cour pénale internationale, plutôt devant la Cour internationale de justice, parce qu'elles auront contribué au génocide à Gaza. Alors oui, revenons sur le local et on t'écoute sur ce qui s'est passé dans les Bouches-du-Rhône en particulier.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup vu les grandes multinationales, donc que j'ai citées. Donc il y a Exelia, est une boîte qui n'est pas connue du grand public et qui, parce qu'il vend uniquement des petits composants électroniques. Et donc effectivement, un de ces composants a été utilisé pour que ça sert comme tête de missile pour orienter le missile. Donc pareil, c'est vraiment sans ce petit composant, eh bien le missile n'arrive pas à l'endroit voulu. Et ce qui est intéressant, donc on a découvert grâce aux militants, militantes et journaux comme Mars Actu et Disclose qu'à Marseille, il y avait une entreprise qui s'appelle Eurolinks qui fait des liens de balles, donc ça permet que les balles soient liées entre elles pour mieux rentrer dans les fusils mitrailleurs, donc qui exportait des grosses quantités de ces liens vers Israël. Donc ça a été donc enquêté et donc ensuite publié et diffusé dans la presse. Donc c'est intéressant de montrer qu'il y a aussi plein de petites boîtes près de chez nous, dans la zone industrielle à côté de chez vous. Il peut y avoir une petite PME qui est un des maillons de la chaîne de l'armement ou d'Israël ou de la France qui exporte à Israël. Et du coup, ça a donné lieu à la mobilisation puisqu'il y a eu deux manifestations à destination de Rawlings pour leur demander de rompre ses liens avec Israël. Et il y a eu aussi tout un travail militant fait notamment par Stop Arming Israël 13 de tractage auprès des salariés de Rawlings pour justement créer du lien avec ces salariés pour voir comment ils pouvaient eux aussi faire remonter la pression à leur employeur pour qu'ils rompent ces liens. Quoi. Donc voilà, pour montrer que cette guerre lointaine en Palestine, ben en fait, il peut y avoir des entreprises à côté de chez nous qui ont l'air de rien de l'extérieur, parce que c'est juste une usine avec des gens qui sont sur des machines, quoi. Et puis en fait, ces emplois, à la fin, sont utilisés par l'employeur pour commettre des crimes, quoi.
Et comment réagissent les salariés dans ces entreprises? Alors, je sais que BDS Provence a travaillé, enfin a distribué des tracts sur Dassault à Aix. Et il y a eu des réactions très diverses. Et je suppose que sur Eurolinks aussi, ou sur d'autres entreprises où vous intervenez pour distribuer des tracts régulièrement.
Exactement, c'est très intéressant les différentes réactions possibles des salariés de l'armement. Parce qu'on peut s'imaginer de l'extérieur que ce sont des gens qui sont mauvais par essence et qui adorent savoir que leurs armes tuent des gens, notamment des Arabes ou des musulmans. Ça, c'est un peu l'image qu'on peut se faire un peu de le complexe militaire industriel, c'est des gens qui sont maléfiques. Bon, la réalité, c'est pas du tout ça. Donc en fait, ces entreprises, elles sont complexes. Ces entreprises, elles peuvent avoir une branche civile, une branche militaire. En Safran fait du moteur civil pour les avions de ligne et des moteurs militaires donc pour la guerre. Donc un service chez Safran, il peut juste faire du moteur civil pour que les gens partent en vacances, quoi. Donc, mais du coup, nous, on va tracter devant son site parce que c'est à la fin l'employeur qui nous intéresse, quoi. Donc, il faut voir ça. Dans l'armement, il y a des cuistots qui font à manger le midi. Donc eux, ils travaillent pour l'armement, mais ils sont pas à la production, mais ils aident les salariés à se nourrir. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a énormément de métiers différents. Donc moi et tous peuvent avoir un rôle à jouer. Et en plus, donc il y a du civil et du militaire. Bon, il y a des boîtes, genre MBDA, c'est les missiles. Donc eux, c'est 100% a priori leur production. Faire la guerre, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'orientation de l'entreprise, mais les salariés, eux, ils se voient pas, ou en tout cas rien n'est fait pour que eux se voient comme des gens qui participent à la guerre, parce qu'on leur dit vous travaillez dans une entreprise de défense, vous travaillez dans une entreprise de sécurité, cybersécurité, vous travaillez dans une entreprise de haute technologie, et donc on recrute des ingénieurs divers et variés pour faire des calculs, pour améliorer la précision d'un laser, pour j'en sais rien. Donc il y a vraiment un fractionnement du travail qui fait que l'entreprise fait en sorte que le salarié ne se pose pas de questions sur l'usage de leur métier, parce qu'ils ne voient pas ils font pas de pistolet, ils font pas de tank, ils font pas d'avion, sauf d'assaut. Donc il y a vraiment même pour le salaire d'armement, c'est abstrait pour eux le rendu de leur travail. C'est vrai que nous, on a eu tout ce boulot, et après, donc je vous raconte les réactions, de justement leur mettre sous le nez quand même les liens entre leur entreprise et ce qui se passait à Gaza. Et donc c'est quoi les réactions? Donc nous on trouve que les réactions sont très intéressantes, parce qu'en général, les salariés de l'armement, quand on leur distribue un tract qui parle de leur entreprise et de son activité, ça les intéresse. Donc nous on sait que les tracts sont lus parce qu'on les voit aux arrêts de bus, aux arrêts de tram, ça ils prennent le temps, ça les lire recto verso, ils lisent les tracts. Après les réactions, je vais vous faire du plus hostile, c'est vous dites n'importe quoi, nous on contribue à la défense d'Israël. Donc voilà, donc il y a une petite minorité très hostile, très agressive, très en soutien aux Israéliens. Donc ça c'est une petite minorité. À l'autre extrême, il y a des gens qui disent mais oui, mais moi je vais aux manifs Palestine tous les vendredis, samedi, dimanche, c'est en fonction des réalités locales. Donc on a vraiment des gens qui sont vus des militants pro-palestiniens, mais qui bossent aussi dans l'armement. Donc ça c'est un cas intéressant. Et après, entre deux, vous avez des gens qui me disent bah oui, je sais bien que c'est mal, mais je vais réagir et que puis-je faire? Donc on a ça, il y a des ah bon, je ne savais pas, je vais me renseigner. Il y a des gens qui prennent le track et qui ne parlent pas avec nous, puis il y a ceux qui ne prennent pas le track. Donc ça vous donne un peu un spectre des réactions possibles. Et nous, voilà, on sait qu'après chaque tractage que l'on fait, des salariés nous écrivent pour dire merci beaucoup d'être venu, je ne me sentais pas bien par rapport à ce que je faisais, etc. Comment est-ce que je peux agir? Et donc nous, on rentre dans une deuxième phase un peu, après avoir fait cette première phase de faire connaître la campagne aux salariés de l'armement, d'organisation, de voir comment est-ce qu'on peut vraiment faire remonter la pression dans les entreprises, pour que les directions d'entreprise se réorientent, rompent leurs liens, etc. Donc on avait tout ce boulot de pédagogie, maintenant de s'organiser et de comment est-ce qu'on réfléchit notre tractage pour qu'on aille orienter, enfin qu'on ne soit pas juste à réciter un discours contre leur boîte, mais qu'on pose des questions aux salariés pour qu'eux réfléchissent à leur tour. On a la politique aussi de distribuer plutôt le matin quand les salariés embauchent, pour que ça suscite des discussions entre eux à la machine à café, à la pause clope, à la cantine. Donc nous, on sait qu'on a beaucoup de retours de salariés d'armement. Et ce qui est intéressant, on a aussi beaucoup de retours négatifs des directions d'entreprise.
Voilà, oui.
Elles détestent qu'on vienne tracter. Donc tracter, c'est un droit, mais on est en dehors de l'entreprise, on est dans un espace public, quoi. Et les boîtes, elles appellent systématiquement la police pour nous chasser, mais la police ne peut pas nous chasser, donc ils font juste des relevés d'identité, donc ça met à la pression, mais ça montre en même temps que ça touche l'entreprise parce qu'elle obtient une réaction d'elle. On sait que les entreprises aussi envoient des mails systématiquement à tous leurs salariés. Donc, par exemple, vous imaginez un site de 3000 personnes. Nous, on distribue 300 tracts, mais il y a 3 salariés qui reçoivent un mail du type « Attention, demain, des manifestants vont venir tracter. Faites attention, ne répondez pas à leurs provocations. En cas de problème, voici le numéro du chef de la sécurité. » Donc il y a vraiment ce truc de peur de la part des entreprises que ce lien se fasse entre le mouvement pro-palestinien et celle de l'armement. Ça les effraie terriblement, ces entreprises-là. D'autant qu'on a déjà obtenu des victoires. Ces transpondeurs Thalès dont je parle tout à l'heure ont été bloqués aux douanes fin mai, donc dans la plus grande, sans aucune annonce. Donc Macron n'a pas annoncé que c'était bloqué, Thalès ne s'est pas plaint et Elbit non plus. Mais grâce à Disclose, on a su que c'était effectivement bloqué aux douanes. Donc c'est-à-dire que Macron, quand il nous dit la France ne vend pas d'armes, c'est faux, mais derrière, il est obligé de corriger son discours pour qu'il corresponde à la réalité. Donc on a su qu'on avait au moins, cette transaction-là était bloquée. Donc il y a peut-être d'autres transactions qui, d'autres livraisons qui ont été bloquées. Donc pour revenir au cas de Aix, donc à Aix, il y a Dassault Systèmes, et à Dassault Systèmes, on sait que l'entreprise Dassault Systèmes en général a un site en Israël et vend par ailleurs des logiciels à Elbit, mais on ne sait pas lesquels. Et donc on s'est rendu compte qu'à Aix, il y a des salariés qui n'étaient pas au courant des liens avec Israël, mais il y a des salariés aussi qui disent « Ah oui, mais moi, j'ai eu au téléphone mes clients israéliens et on a coupé la conversation parce qu'ils recevaient des bombes sur la tête qui ont été ensuite bloquées par le dôme de fer. » Donc voilà, donc pour vous dire qu'à Aix, il y a au moins une personne ou un bureau qui est en lien direct avec Israël. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi discuter de ça et dire « Est-ce que ça vous semble normal, vous, que en tant que salarié d'Dassault Systèmes, que vos collègues ils travaillent régulièrement avec Israël ?» Donc il y a des... quand il y a des liens, c'est-à-dire qu'il y a aussi il y a des services qui travaillent avec Israël, qui achètent ou qui vendent, et donc c'est comment est-ce qu'on, sans culpabiliser les salariés de ces secteurs, de ces bureaux-là, faire en sorte que la question se pose déjà et qu'ensuite on obtienne la rupture des liens.
Ok, ben écoute, pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, juste les perspectives pour 2025, je crois que vous avez déjà prévu des journées d'action.
Exactement. Ben nous, en 2025, on veut obtenir d'autres victoires, parce qu'on a obtenu donc que les transpondeurs Thales soient bloqués, on a obtenu l'année dernière que les stands israéliens qui devaient être dans le plus grand salon mondial de l'armement, qui s'appelle Eurosatory, ont été bloqués. Donc on a obtenu des choses comme ça. Donc la prochaine étape, c'est qu'on obtienne d'autres victoires, d'autres annonces de matériel arrêté à la frontière ou même de contrats qui soient rompus. Ça, c'est nos objectifs. Et donc, ce qu'on a proposé, donc il y a différents groupes relayent la campagne en France. Entre 15 et 20 villes l'année dernière, on fait au moins un tractage sur ces questions-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que donc jeudi 30 janvier, il y aura une journée nationale d'action de tractage. Et donc, nous, on appelle tous les collectifs en soutien au peuple palestinien, les syndicats, les partis, à se servir de cette date pour aller tracter ou autre, se rassembler devant le Thalès ou le Safran qui se trouve dans leur ville. Ça, c'est une première échéance, sera effectivement donc jeudi 30 janvier.
Ok, ben écoute, je te remercie beaucoup. On se retrouvera certainement dans une prochaine émission pour que tu nous parles de tout ce qui est prévu pour l'année. Et puis, on essaiera de voir aussi, entre les différents collectifs qui sont sur Marseille, sur le département, comment est-ce qu'on peut participer d'une manière ou d'une autre à cette journée du 30. Merci beaucoup Loïc, et on continue avec les dernières informations sur Marseille. Et on te remercie encore pour tu es sur Radio Galère, et tu peux nous retrouver tous les mercredis de 18 à 19h, c'est ça, 18 à 19h sur l'antenne. Voilà. À bientôt Loïc, merci bientôt. Pour ton intervention.
De rien, au revoir.
Alors on revient et on termine l'émission. On a encore deux toutes petites minutes pour vous rappeler que cette collecte de fonds pour les blessés et malades palestiniens, vous pouvez y participer si vous en avez les moyens, en envoyant un chèque à l'ordre de l'association Palestine 13, sous couvert de la CIMAD, au 8 rue Jean-Marc Catala, 13002 Marseille, et vous mentionnez au dos du chèque blessés et malades palestiniens en Égypte. Ça, c'est pour cette collecte. Et pour ce dimanche, outre la manifestation habituelle à 14h, vous pouvez, si vous avez des disponibilités tout au long de la journée, à partir de 10h et jusqu'à 16h30, des conférences, des ateliers avec l'organisation de Palestine Cri du Cœur. C'est à la Maison de la Connaissance, au 50 boulevard Viala, de 13h15 à 13h15, et vous pourrez entre autres entendre des médecins qui sont intervenus à Gaza, donc de 10h à 16h30 au 50 boulevard Viala dans le 15e, et puis à 17h au Gyptis, cinéma Le Gyptis dans le 3e, à la Belle de Mai, projection du film Iskor, les esclaves de la mémoire, en présence du réalisateur Eyal Sivan. C'est organisé par le collectif Palestine en résistance, le festival Ciné-Palestine Marseille et l'organisation TSEDEC Marseille. Voilà, ce sera suivi d'un débat. Et tout de suite, on vous rappelle que vous êtes comme chaque semaine sur Radio Galère 88.4 avec une heure en Palestine. Merci à Sidi pour la technique et à la semaine prochaine.